qu'il ne soit pas trop écrite, de manière à ce qu'elle soit un peu mieux parlée. Bien, lorsque nous faisions à l'École normale supérieure des retraites avec M. Portal, très fréquemment, il nous disait que pour découvrir une vie spirituelle vraiment religieuse, vraiment chrétienne, il nous était indispensable de nous replonger dans l'histoire des origines du christianisme. À ce moment-là, comme livre, il existait en particulier le livre de Duchesne et les livres de Batifol. Et à l'École normale supérieure, suivant les indications de M. Portal, dans les petits cercles d'études que nous organisions entre nous, dans nos turnes, chaque semaine ou chaque quinzaine, eh bien, parmi les sujets d'études que nous abordions, il y avait en particulier l'étude des livres de Batifol. Un autre point de vue, M. Portal nous disait aussi, et il faisait allusion évidemment à son histoire personnelle, il était lazariste, par conséquent, d'une congrégation fondée par Saint Vincent de Paul. Il nous parlait souvent de Saint Vincent de Paul. Et il nous disait que dans un ordre religieux, pour que cet ordre religieux soit vraiment fidèle à l'esprit de son fondateur, il n'est pas suffisant qu'il connaisse la lettre des règles qui ont été écrites par lui, mais il est très important de savoir comment ces règles sont arrivées à naître. Et pour quelqu'un comme Saint Vincent de Paul, il nous disait que un des moments les plus féconds de la vie de Saint Vincent de Paul, qui a eu des conséquences les plus grandes dans la fondation de l'ordre masculin et aussi de l'ordre féminin qu'il a fondé, c'est précisément les conversations qu'il a pu avoir sous forme de conférences, mais aussi de conversations ultérieurement, avec les sœurs de charité. Autrement dit, soit dans un ordre religieux, soit dans une société religieuse qui est évidemment par certains côtés beaucoup plus vaste, mais qui cependant a des relations très directes avec ce que peut être un ordre religieux, une condition pour que l'on soit vraiment fidèle à la société à laquelle on appartient, c'est de se replonger dans l'esprit intérieur qui a permis à cette société de se fonder. Et en effet, lorsque les premiers frères de Saint Vincent de Paul se groupèrent autour de lui, ils ne savaient absolument pas qu'ils allaient fonder un ordre religieux. Les lazaristes qui sont venus après, un siècle ou deux après, savaient beaucoup mieux ce qu'était l'ordre des lazaristes que ne le savait Saint Vincent de Paul lui-même, lorsqu'il le fonda, et même probablement lorsqu'il mourut. Et pour que les lazaristes d'un siècle ou deux après la fondation arrivent à ne pas, pour ainsi dire, se figer dans un état déterminé de leur ordre et conservent l'esprit nourricier, créateur qui a permis à cet ordre de naître, il fallait qu'il pénètre de nouveau par l'intérieur dans la mentalité qui petit à petit a poussé Vincent de Paul et ses compagnons à fonder leur ordre. Sinon, eh bien, il restait sur un plan uniquement sociologique, avec évidemment l'aide d'une règle bien faite, mais qui était surtout bien faite à l'époque où elle a été écrite, et par conséquent, extrêmement menacée, une menace d'ailleurs qui est souvent efficace, de se cristalliser. Eh bien, pour nous autres chrétiens, nous avons exactement les mêmes difficultés, les mêmes dangers. Et d'une certaine façon, beaucoup plus grave, parce que si déjà, sur le plan d'un ordre religieux, il est important que cet ordre reste vivant, enfin, ce n'est pas décisif. Nous connaissons bien des ordres qui ne sont pas très vivants, nous en connaissons qui sont morts vivants, et, mon Dieu, le sort du christianisme n'est pas lié à la persévérance d'un ordre religieux déterminé. En revanche, incontestablement, l'Église, il le dit. Et si l'Église, un jour, connaissait le sort de tel ordre religieux, qui continue à vivre tout en étant inexistant, spirituellement parlant, eh bien, incontestablement, ce serait un échec définitif pour le christianisme. Donc nous avons, nous autres, pour vivre en chrétien, besoin de nous replonger dans l'esprit intérieur, dans l'histoire intérieure qui a permis à Jésus et à ceux ou quelques hommes, quelques femmes qu'il a rencontrés au départ, d'être à l'origine de l'Église. Par conséquent, vous voyez, quand M. Portal nous disait « replongez-vous dans l'histoire des origines de l'Église », ce n'était pas simplement une œuvre d'historien, ou plus modestement d'étudiant de l'histoire qu'il nous proposait. Incontestablement, il voulait que, par la médiation de cette étude, nous arrivions à découvrir l'esprit intérieur qui renouvela si profondément quelques hommes en contact avec Jésus, qui en fit des apôtres, et dont l'action a encore, jusqu'à présent, des conséquences réelles. Eh bien, nous autres, qui sommes arrivés 20 siècles après, qu'est-ce que c'est que l'Église pour nous? Incontestablement, c'est une question que ne se posaient pas les premiers disciples de Jésus, pour la bonne raison que l'Église, à ce moment-là, qui existait en pleine ferveur, était encore inexistante sociologiquement parlant. Les chrétiens n'ont commencé à s'appeler chrétiens que lorsque, d'une certaine manière, ça, il y avait déjà un certain hiatus entre l'origine tout à fait originale et ce qui l'a suivi. Bien, nous autres, qu'est-ce que c'est que d'être chrétien? Je crois que spontanément, si on nous posait cette question, nous dirions que c'est faire partie de l'Église, d'une société visible, hiérarchique, organisée, ayant une doctrine. Donc c'est faire partie d'une Église et adhérer à une doctrine. Eh bien, très probablement, ces deux conceptions sont indispensables, mais elles ne sont pas essentielles. Être chrétien, c'est être à la recherche de Jésus-Christ. Incontestablement, pour découvrir, dans la mesure de nos moyens, ce qu'a été Jésus et ce qu'il est, par conséquent encore, ce qu'il est pour nous, nous avons besoin de passer par la médiation d'une société et par suite d'une doctrine. Mais si jamais nous concevions comme suffisant l'appartenance à une société et l'adhésion à une doctrine, nous serions sur un plan qui n'est pas exactement un plan correspondant à ce qui a été l'originalité du départ de l'Église. Voyez, si vraiment l'Église, pour être chrétien, si pour être chrétien, l'appartenance à l'Église suffit. Si en définitive, le christianisme, c'est d'abord et essentiellement une société, si cela était, eh bien nous devrions dire que l'Église est passée par un maximum de réalité et de perfection au Moyen-Âge. Car à ce moment-là, la société d'Église, incontestablement, avait une certaine perfection, qu'elle n'a plus maintenant. Nous devrions dire que l'Église a rétrogradé. Si nous disons que être chrétien, c'est adhérer à une doctrine, eh bien, nous pouvons dire que l'Église a presque réussi, pas entièrement, car en définitive, beaucoup d'éléments de la doctrine chrétienne, je ne parle pas des aspects proprement théologiques qui supposent la foi, mais je parle de la doctrine qui est au fond celle qui intéresse la plupart des gens, même des chrétiens, à savoir la doctrine sociale, même une certaine doctrine politique, même maintenant, puisque c'est à la mode, une doctrine économique, eh bien, ces doctrines-là sont dans une large mesure acceptées par le monde. Et je pense qu'ils le seront de plus en plus facilement, parce que la doctrine elle-même de l'Église s'y adaptant. De telle sorte qu'on pourrait dire que, indépendamment des choses proprement théologiques, l'Église aurait proprement réussi à donner au monde une certaine éthique, une certaine morale individuelle, collective, sur les différents plans où la société se développe. Mais, incontestablement, les origines de l'Église exigent beaucoup plus pour que la conséquence, la suite, soit à la hauteur du départ. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de méditer un petit peu sur ce qu'ont été les origines de l'Église, l'origine de l'adhésion des premiers disciples à Jésus-Christ, et, en deuxième lieu, sur le chemin qu'il nous faut découvrir, car il ne nous est pas proposé d'office, pour réaliser à notre tour, à notre manière et dans notre temps, le même cheminement qui nous permet d'être non seulement adhérents à une société, une partie d'une société, non seulement adhérents à une doctrine, mais vraiment disciples de Jésus. Eh bien, tout à fait au commencement, tout à fait au départ, quand Jésus a commencé à prêcher, incontestablement, les miracles qu'il a pu faire lui ont attiré du monde. On a eu le rappel autour de lui. Mais, à vrai dire, j'ai l'impression qu'à cette époque, les miracles étaient beaucoup plus nombreux que maintenant. Ils étaient beaucoup, ils étaient par conséquent, par bien des points, beaucoup moins extraordinaires. Les miracles maintenant se font rares. Pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être bien parce qu'ils sont moins nombreux, peut-être bien aussi parce que on est moins crédule. Mais incontestablement, les foules ont vu des miracles et que quelques-uns simplement ont suivi Jésus. Ils montrent bien que le miracle, c'est bien la grosse caisse, mais d'une certaine manière, la grosse caisse ne suffit pas. La curiosité, l'étonnement, l'effroi même devant un miracle ne suffisent pas pour que ce miracle soit efficace sur le plan proprement religieux. Il faut que l'homme soit touché au fond de son cœur. Et par exemple, quand le Christ fait le miracle de la, par exemple, de la pêche miraculeuse, hein, et que Saint-Pierre dit à son maître, « Seigneur, écartez-vous de moi parce que je suis un pêcheur. » Bien, Saint-Pierre faisait ce qu'il pouvait pour dire ce qu'il sentait. Mais incontestablement, il n'exprimait pas à ce moment-là directement que ça l'avait vraiment étonné qu'il y ait tant de poissons dans son filet. Ce n'était pas un étonnement, je dirais, de l'ordre d'un étonnement physique. Au fond, c'était cette sorte de d'émoi intérieur qui lui faisait exprimer la différence fondamentale qu'il y avait entre celui qui était devant lui, son maître, et lui-même. Il accusait ça en disant « je suis un pécheur ». Il n'avait pas spécialement péché. Mais le mot « pécheur », c'est un mot, je dirais, ouvert. C'est un mot qui exprime pas simplement qu'on a péché, mais ça veut dire aussi qu'on est indigne, qu'on est d'un autre ordre, qu'on est, je dirais, absolument en dessous de celui devant lequel on se trouve. Le mot pécheur ne doit pas être pris sur le plan proprement moraliste. Saint-Pierre ne devait pas être un professeur de morale spécialement distingué. De telle sorte que le mot pécheur indique simplement le remous qui a, pour ainsi dire, secoué le tréfonds de l'âme de Pierre devant ce miracle. Bien, ce remous-là était indispensable, mais le miracle n'était pas suffisant pour le produire. Donc vous voyez, les premiers disciples de Jésus ont pu être attirés auprès de lui par les miracles. Mais d'une certaine manière, les miracles n'étaient pas suffisants pour les y maintenir auprès de lui. Il fallait qu'il y ait en eux quelque chose qui corresponde à ce qu'il était. Eh bien, on pourrait dire, mais à ce moment-là, il y avait une attente presque fiévreuse, au moins dans certains milieux, de la venue du Messie. Incontestablement, dans cette époque-là, le peuple juif qui était sous joug étranger, qui était, un peu en ébullition, attendant une libération qui se faisait attendre d'ailleurs, espérant un messie politico-religieux qui d'une certaine manière aurait redonné à leur race l'indépendance qu'elle avait connue jadis, lui permettant d'avoir cette particularité religieuse, ces particularités religieuses qui étaient toujours souvent menacées et quelquefois tolérées. En tout cas, on pourrait penser que d'une certaine façon, cette attente d'un messie, du messie, pouvait faciliter la compréhension de ce que Jésus était auprès de ses disciples. Mais en fait, on a l'impression que le Christ s'est servi avec une extrême prudence de la conjoncture politico-religieuse de son pays à son époque. Il s'est plutôt laissé appeler le Messie qu'il a dit qu'il était lui-même. On a même l'impression que lorsque on lui posait directement la question, il répondait plutôt un peu en normand. Parce que, sans doute, voyait-il un peu tout ce que cela impliquait de perversion ultérieure si véritablement il entrait trop à fond dans les espoirs messianiques de son époque. La manière dont il s'est, pour ainsi dire, échappé à la foule lorsqu'elle voulait le faire roi après la multiplication des pains, n'est qu'une des manifestations de cette extrême prudence qui faisait que, d'une certaine manière, il utilisait les données politiques ou religieuses de son époque, mais en ayant la plus grande attention pour que ces données, ces espérances politiques et religieuses ne l'utilisent pas. Et en définitive, même avec sa prudence, il a été conduit très rapidement à l'échec que vous savez. De telle sorte que d'une certaine manière, le messianisme